Cet après-midi, avec l'intervention de Philippe Gonin, qui va nous présenter son travail qu'il a mené sur les dogs. Ensuite, on aura deux tables rondes, notamment sur les lieux du punk à Rouen, et aussi sur la dernière table ronde, sur la scène du squat chez Émile jusqu'à aujourd'hui, donc la scène actuelle. Donc voilà un peu le programme de cet après-midi.
Bonjour à tous. J'arrive un peu précipité, donc le temps de sortir mes papiers. Je ne suis pas de Rouen, je ne suis pas normand, et donc je vais parler des dogs avec un regard qui est complètement extérieur et à la Normandie et au côté affectif qu'on peut avoir à Rouen avec ce groupe, surtout quand on a connu les gens, quand on a évolué avec, ou quand on a grandi avec. Pour moi, les Dogs, j'ai quand même un peu déroulé du câble, comme on dit, c'était un groupe qu'on pouvait écouter, et exactement comme je l'ai dit à Rennes en parlant de Marquis de Sade, pour moi, c'était un groupe de rock. Peu m'importait qu'ils viennent de Rouen, de Nice ou d'ailleurs, c'était un groupe de rock et c'était ça qui était intéressant. Après, Dominique disait toujours au début des concerts, bonjour, on est les Dogs et on est de Rouen. Donc lui revendiquait aussi ce côté Rouen, mais c'était pas la chose qui était le plus important quand on écoutait ce groupe à l'époque et qu'on était de Lyon. Moi je suis de Lyon, donc c'est Star Shooter notre groupe là-bas. Mais de la même manière, Star Shooter, on avait ce côté affectif à Lyon parce qu'il était de Lyon, et uniquement pour ça aussi. Donc je comprends ce côté-là. Mais moi, je ne peux pas en parler comme quelqu'un qui a connu les gens. Je n'ai connu aucun des membres de passé ou encore vivant des Dogs. Je n'ai jamais rencontré Dominique, et donc ce n'est pas tout à fait la même chose pour moi que de parler de Kent que j'ai rencontré ou de Philippe Pascal de Marquis de Sade que j'ai rencontré ici. Je vais donc en parler en musicologue et en essayant de voir là-dedans ce qu'on peut tirer de cette musique-là. En fait, le titre complet de la conférence, c'est « Different point d'interrogation ». Ça reprend le titre du premier album chez Philips. Et le sous-titre, c'est « Les Dogs entre Energy Punk et Heritage 60s ». Parce que tout est là. Et ce n'est pas moi qui le dis. Sur la deuxième diapo, on a cette émission qui était faite avec Manœuvre. Alors bon, on connaît l'histoire de Manœuvre avec les Dogs. Il avait invité, c'est pas très bon, hein, je l'ai piqué sur YouTube, c'était sur Canal Jimmy à cette époque-là. Et j'ai pris un tout petit extrait de ce que disait Dominique, un peu rétro entre guillemets au-dessus, parce que c'est lui qui présente les Dogs comme ça. Voilà, alors on ne va pas l'écouter en entier parce que c'est une émission qui dure, enfin les morceaux ont été enlevés, ça dure 27 minutes, mais voilà, il dit un peu rétro, j'ai toujours aimé ça, les chemises à jabot, le côté Kinks, et effectivement, normalement les images bougeaient, le côté Kinks, tout ça, ça a toujours fait partie de l'héritage des Dogs, et aussi, il le dit à un moment donné, Alice Cooper, l'un des premiers artistes qui l'a marqué, c'est son témoignage à lui, hein, donc on peut lui faire confiance, c'est Alice Cooper qui l'a vu à la télé dans une émission qui s'appelait Pop 2 à l'époque, qui était la seule émission de rock à ma connaissance qui passait dans les années 70 à la télévision française, où il y a eu plein de groupes, plein de concerts qui sont passés, avec des concerts live de tous ces gens, et il raconte aussi qu'il était allé voir ensuite Alice Cooper à peu près à l'époque de Killer, justement, à l'Olympia, si je me souviens bien de ce qu'il dit. Et donc, parmi les autres héritages, on a évidemment les Kinks et cette fameuse chanson. Alors, je ne sais pas pourquoi le son passe de manière aussi mauvaise. ni pourquoi les images ne bougent plus, mais en tout cas, normalement, ça devrait bouger. Voilà. Alors, l'autre groupe qui l'a fortement marqué dans ce côté un peu rétro, et c'est ça qui est intéressant, c'est que... non, il n'y a que celle-là de prise. Hein. C'est ça qui est intéressant dans ce côté un peu rétro, c'est que on est dans une journée d'études qui s'appelle Punk is not dead, et que les Dogs, vu de l'extérieur, encore une fois, n'a jamais été un groupe de punk, ne s'est jamais revendiqué comme punk, en tout cas, dans tous les témoignages que j'ai pu voir de Dominique en train de parler, jamais il ne cite le punk comme une référence. En revanche, qu'il ait apporté et qu'il ait offert un disque des Sex Pistols à quelqu'un ici en revenant et que ça a pu le marquer, oui, ça c'est une chose. Mais ce n'est pas un groupe de punk, c'est d'abord un groupe qui est dans un héritage 60s et un héritage... pas du rock'n'roll original des années 50, mais comme il le dit lui-même, d'un rock qui, à la fin des années 50, passe en Angleterre, et là, va devenir un peu plus mélodique, un peu plus pop. Et c'est d'abord ça qui l'a marqué. Et notamment ce groupe, les Flaming Groovies. Maintenant, on va écouter vraiment les Dogs. Et là, je vais le laisser un peu plus longtemps. Ce que, pourquoi j'ai mis cette chanson des Kinks, d'abord parce que c'est la plus connue, à part Waterloo Sunset, et puis ensuite les Flaming Groovies, pour plusieurs raisons. Une petite anecdote d'abord qui était racontée par Dominique lui-même, qui est pourquoi est-ce que vous appelez les Dogs ? Alors, il y a les chansons avec le mot Dogs, I Wanna Be Your Dog, etc., les Stooges. Et puis, il raconte une petite anecdote, je ne sais absolument pas si elle est vraie, mais en tout cas, lui la prenait pour vraie. Il semblerait qu'à un moment donné, les Flaming Groovies aient voulu changer de nom et envisagé un temps de s'appeler les Dogs. Et que finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à s'appeler les Flaming Groovies. Et puis, il dit, non sans humour, comme Flaming Groovies s'était déjà pris, ben, on a pris l'autre nom qu'ils voulaient et on s'est appelé les Dogs. Voilà, tout simplement. Comme quoi, un nom, ça peut des fois venir de pas grand-chose. Le premier album, différent, avec la toute première chanson. Là, j'ai choisi de passer en live. Alors, je vous promets qu'il y aura du Dogs encore à la fin de l'intervention, malgré le son. Ce qu'on a entendu ici, entre les groupes de rock-pop 60s, anglais ou américains, les Kinks ou les Flaming Groovies, et ce qu'on vient d'entendre ici, il y a vraiment une filiation qui est liée au son. Et le son Dogs, il est lié aussi à du matériel. Alors, j'ai parlé il y a 3 ou 4 jours à Lionel Hermani, et qui m'a indiqué ce que j'avais pressenti d'ailleurs, et qu'on voit sur les images, c'est que l'ampli qu'utilisait Dominique, c'était le Fender Twin Reverb, et qu'on a ce son tout à fait typique qui est donné. Alors on l'a vu ici jouer de celle-ci, qui est d'ailleurs la même que la mienne, je le dis ça en passant, la Telecaster Finline modèle 69, avec ces micros-là, qui sont les micros de Telecaster, alors que la 72, elle a des micros double bobinage, ou le son Rickenbacker, c'est-à-dire un son qui est extrêmement sec, extrêmement gling-gling, c'est pas le son qu'on peut avoir avec une Gibson. Cela dit, sur les conseils d'Hermani, il est aussi passé, pour le deuxième album ou le troisième album, je ne sais plus, il est aussi passé sur Gibson, mais il est vite revenu sur la Telecaster, qui correspondait plus au son qu'il voulait avoir. Et l'ampli, c'est pareil, choisir un Fender, ce n'est pas choisir un Marshall. Donc c'est avoir d'emblée l'envie d'avoir un son qui est un peu plus clean, avec un crunch, certes, mais pas avec les grosses distorsions qu'on peut avoir avec du Marshall. Et ça, c'est typique des sons, même si Kings, on connaît l'anecdote du duo parleur crevé, etc. C'est typiquement le son qu'on a dans cette espèce de pop 60s. Et finalement, si on a une, non pas une filiation, la filiation, on vient de la voir avec les Kings, les Flaming Groovies, si on a un parallèle à faire avec des groupes à peu près de la même époque, moi, je les mettrais volontiers en parallèle avec un groupe comme The Jam, qui est un groupe complètement de pub rock aussi, qui n'est pas vraiment un groupe punk, dans la musique, encore une fois. Parce qu'on a bien dit des choses ce matin en ce qui concernait, je ne sais plus qui a dit à la table ronde, que ce qui nous intéressait dans le punk, c'était les fringues, c'était le graphisme, c'était etc. Donc il y a une attitude punk. Mais la musique, elle, elle est restée assez représentative d'un héritage venant complètement des 60s. Pour ces musiciens-là, en tout cas, hein, pour les Dogs et puis pour d'autres aussi. Et cet héritage-là, il est vraiment réel. J'ai écrit il y a quelque temps un petit bouquin qui s'appelle « Rock à papa ». Qui est sous-titré « Le rock n'est pas mort, il est vieux, nuance », et dans lequel je dis aussi que périodiquement, une jeune génération revient vers le rock originel. Et même si Dominique parle des Beatles en disant « Bien sûr, je suis tombé dans le rock le jour où ma grande sœur a ramené Sgt. Peppers à la maison », il évoque surtout les Kings, il évoque surtout des groupes qui sont rattachés au rock'n'roll. Et ces groupes-là, régulièrement, lorsqu'une jeune génération revient vers un rock qui s'est un peu épuré, qui a un peu effacé, notamment dans les années 70, tout ce qui était le rock progressif. Et ce que fait aussi, et je crois que Dominique était assez... Je parle souvent de Dominique et pas des autres, parce que l'auteur-compositeur dans les Dogs, c'était lui quand même, même si le rôle, l'importance des autres, je ne la nie jamais dans un groupe. C'est-à-dire qu'un groupe a un son parce qu'il est l'amalgame de plusieurs personnes qui ont une attitude, un geste, que j'appelle un geste écriture, et que ce geste-là forge le son du groupe et forge le son de l'ensemble. Vous changez un élément dans un groupe, soit celui qui arrive limite, soit il impose une autre façon d'être. Je prendrai un exemple, dans le groupe Cure, quand le batteur est parti, qu'ils ont pris un vrai batteur, c'est-à-dire un batteur qui avait une manière de jouer qui était plus polyforme, leur son a changé aussi à ce moment-là. Mais les compositions en elles-mêmes ne changeaient pas. Donc évidemment, il y a Mimi et puis il y a Hugues qui ont beaucoup fait dans le son des Dogs, mais l'auteur-compositeur restait quand même Dominique. Donc l'un des groupes qu'on peut relier dans la même période aux Dogs, selon moi, dans l'esprit, c'est Jam, et puis l'autre, c'est les Undertones, qui sont aussi à peu près dans ce même type de, je dirais presque de revival, mais c'est pas vraiment du revival, parce que le glam avait aussi permis de pouvoir faire perdurer cet esprit rock'n'roll. Si vous écoutez les disques de Bowie, glam de cette époque, et même si vous écoutez T-Rex, quand ils deviennent T-Rex, qui ne sont plus Tyrannosaurus Rex, mais T-Rex, on a le même type de son, on a la même façon d'avoir un son un peu agressif, et l'esprit punk chez les Dogs va se retrouver dans une énergie qui est celle de cette époque-là, plutôt que dans un son. Alors, j'avais prévu de mettre aussi un autre petit truc, mais je vais passer un peu rapidement. Il y a une autre petite chose qui est assez intéressante dans les Dogs, c'est la pochette du disque. La pochette du disque, elle est aussi typiquement relayée aux 60s et à une imagerie 60s. Alors l'histoire de cette pochette est assez intéressante. Elle m'a été racontée par Lionel Hermani, je ne l'ai pas inventée. Hein. D'abord, la photo. La photo, elle est de Mondino, Jean-Baptiste Mondino. Et Jean-Baptiste Mondino avait d'abord proposé quelque chose comme ça. Vous voyez, ils sont chez Philips aussi, Bijoux. Et Bijoux, ils étaient considérés comme le premier, en tout cas, ça a fait la couverture de Best ou Rock and Folk, je ne sais plus lequel, le premier groupe punk français, Bijoux. Aussi un power trio, important, basse, guitare, batterie, un chanteur, etc. Le power trio, on est dans l'énergie brute, dans l'énergie pure, il n'y a pas de fioriture. Le guitariste assure les rythmiques, le bassiste assure, et le batteur aussi. Tout le monde est à poil dans un power trio. Il n'y a pas de moyen de se cacher derrière un truc, faire une rythmique un peu facile, on est tous là. C'était l'image de Bijoux. Et Lionel me raconte que cette pochette, il n'en a pas voulu. Un peu trop sophistiquée pour lui, et en même temps, pas assez sophistiquée. Il a préféré ce genre de choses qui faisaient référence, j'y reviendrai, notamment aux Rolling Stones, une pochette des Rolling Stones, 12x5. Et la volonté, c'était de ne rien mettre sur la pochette, aucune écriture. Ce que Philips ne voulait pas. Il voulait absolument qu'il y ait le titre de l'album, etc. Et si vous regardez la pochette là, de Hugues, il y a écrit « Different » dessus. Le titre de l'album est là-dessus. Il y a écrit « Different » sur le petit truc blanc, et c'est le titre de l'album. Philips a obtenu qu'il y ait « Dogs ». Et un autre petit détail aussi. Il paraît que Mimi avait souvent un œil injecté de sang. C'était un truc qu'il avait, etc. Et que Mondino l'avait repéré, cette chose-là. Et que c'est pour ça que la moitié de son visage est à moitié dans la pénombre, pour qu'on ne voit pas sur l'image cet œil injecté de sang qui aurait pu, évidemment, sur l'image ne pas aller. Donc il a travaillé la lumière de manière à ce que la moitié du visage de Mimi soit aussi là-dedans. Il faut savoir qu'à la même époque, Mondino, qui était en pleine gloire à ce moment-là, fait Bijoux, fait Bachung aussi. Et Bachung, c'est aussi chez Philips. Ça, c'est le deuxième album de Bachung, mais c'est celui dans lequel... Enfin, à l'époque de Gabi. Et bon, il y a des petites anecdotes qui m'ont été racontées par Lionel, je ne vais peut-être pas les taire ici, mais... Enfin, peut-être pas les dire ici, mais il m'a dit que photographier Dominique, il y avait une lumière qui était captée, et que lui, c'était un peu plus compliqué de le prendre en photo, d'avoir quelque chose qui ressorte. En tout cas, la référence... Elle est sans doute celle-ci. Alors évidemment, ils sont cinq, ils sont pas trois. Mais on est dans cet esprit-là, en tout cas. Et là aussi, on n'est pas dans le Rolling Stone de Sticky Finger des 70s, on est dans le Rolling Stone des 60s complètement, hein, à cette époque-là. Donc voilà. En tout cas, c'est une pochette des Stones. Je pensais que c'était celle-ci, parce que là, j'ai pas eu d'informations plus précises là-dessus. Alors, est-ce que les Dogs étaient un groupe punk ou pas? Je crois que la réponse, on va la laisser à Dominique. Voilà, un morceau pour rappeler à tout le monde qu'on est un groupe de garage, et ils reprennent le Shout, dont on a vu la couverture du 45 Tours ce matin. Hein, il y avait celle de Graines de Violence et celle-ci des Isley Brothers qui est là. Donc, groupe de garage, c'est très significatif, et ça demande de se poser la question suivante, de savoir finalement, et plus je fais partie de cette équipe, plus je me pose de questions finalement là-dessus, c'est qu'est-ce que c'est que le punk et qu'est-ce que c'est que d'être punk réellement. Et c'est pour ça que le titre de cette communication, c'était... Une énergie, qui était celle d'être punk, dans le cas des Dogs hein, en particulier, je me pose moins la question pour les Sex Pistols, c'est assez curieux, mais dans le cas des Dogs, une énergie qu'on voit sur scène, qui est décuplée en plus par la présence de maintenant il s'appelle Tony Truant, mais sur scène, on vient de le voir, mais un héritage musical qui lui est complètement ancré dans les 60s, par-dessus tout le rock progressif, ce qui peut aussi sembler normal dans la mesure où... Les Dogs commencent en 73. Donc le punk n'existe pas à ce moment-là. Et que les choses les plus énergiques ou les plus revendicatives qu'on peut trouver, c'est dans cette école de Detroit avec les MC5, les Stooges, qui font partie de l'héritage aussi, mais que la musique qui marque, la musique qu'on écoute, et on en a entendu ce matin, j'étais surpris et pas surpris en même temps d'entendre parler de Motorhead, qu'on trouvait dans les articles heavy metal et dans les articles punk, hein, dans Rock and Folk à l'époque, il ne savait pas trop où le mettre. Et bon, il avait les cheveux longs, mais en même temps, c'était un power trio, etc. J'entendais parler de Blue Oyster Cult. Et là, j'entends avec Dominique Labouvet parler d'Alice Cooper et de groupes comme ça. Même s'il lui disait, moi, les morceaux longs du progressif, ça ne m'intéresse pas. Il est, avec Alice Cooper, dans une sorte de glam rock. Et avec tous les groupes qu'on a entendus ce matin, on est dans des groupes de rock énergiques, même si Blue Oyster Cult est un peu plus compliqué que les Motorhead, hein, faut quand même dire les choses. Voilà, donc est-ce que les Dogs étaient un groupe punk? La réponse, musicalement, et de manière indéniable pour moi, est non. En revanche, ils sont arrivés à une époque, à l'époque du premier album, il y a les 45 tours avant, évidemment, qui ont été produits par Hermanni. Une petite anecdote d'ailleurs qu'il m'a racontée, sur le maxi 45 tours que je n'ai pas, mais il y a un numéro après le MM Melody Massacre, il y a un chiffre, et c'est le découvert qu'il avait à la banque au moment où il a sorti le maxi 45 tours. Voilà. Donc je ne sais pas quel est le chiffre, combien il y en a d'ailleurs, mais c'était son découvert. Et s'il y a des collectionneurs ici qui ont encore ce maxi 45 tours, il paraît qu'entre le chiffre qui est écrit sur la pochette de référence et celui qui est écrit sur le rond central, c'est pas le même. Ils se sont trompés. Enfin, oui, il s'est trompé, je ne sais pas comment ils ont fait, mais enfin, ce n'est pas le même. Et manifestement, sur toutes les choses. Donc, les Dogs, et je vais terminer avec ça, arrivent à une époque et enregistrent à une époque où le rock progressif est en pleine dégénérescence, où une énergie punk qui est née en particulier à New York, dans Manhattan, au CBGB, avec des groupes comme les Ramones, notamment, hein, on en a parlé aussi ce matin, va être... transplanté en Angleterre par des gens comme Malcolm McLaren, qui va fabriquer quelque part les Sex Pistols, qui vont entraîner une énergie. Tous les témoignages des gens qui ont vu les Sex Pistols sont clairs. On a vu un truc, on s'est dit on peut le faire. Et donc, d'un seul coup, il y a eu toute cette émergence-là, et c'était assez facile pour la presse de mettre tout le monde dans le même panier et de dire, bah voilà, on a l'école punk française, et dedans, bah, il y a Bijoux, que je n'ai jamais considéré comme un groupe punk, il y a les Dogs, que je n'ai jamais considéré comme un groupe punk, et puis quand on arrivait après, on disait que c'était des groupes de post-punk. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être post-punk? Je crois que quelqu'un a écrit un bouquin qui est paru chez Camion Blanc qui dit le post-punk, ce genre qui n'existe pas. Et effectivement, ça veut tout et rien dire en même temps. Et donc, il faut toujours qu'on se méfie de ces choses qui sont assez faciles pour tout le monde de mettre les choses dans des cases. Mais dans les cases, il y a plein de petits casiers qui peuvent facilement s'échapper de tout ça. Alors, je n'ai pas fait d'analyse vraiment musicale. Hein, je parlais un peu du son, etc., des Dogs, et je voulais finir avec Dominique en acoustique, montrant qu'il était capable aussi de jouer de la musique acoustique folk et de faire de belles chansons, parce que ce qui compte, je crois, dans les Dogs, c'est la qualité d'écriture qu'avait Dominique Laboubé, qui était une qualité à la fois d'écriture musicale et d'écriture mélodique. Et sa grande ambition, il l'explique, hein, encore une fois, je ne l'invente pas, c'était des chansons. Écrire des chansons avec des couplets, refrains, ponts, et de ne pas aller plus loin dans la complication que ça. Des chansons qui étaient héritières de cette pop anglaise à la Kinks et compagnie, un peu les Beatles aussi, les Stones pour l'énergie rock'n'roll, en privilégiant la mélodie. Et je crois que c'est avec ça que je vais conclure. Je voulais le passer, le son n'est pas très bon, hélas, donc je vais le passer quand même, et j'espère que ça lui, malgré tout, rendra hommage malgré tout. Voilà, je vous remercie. Je crois que tout est dit avec cette dernière chanson en acoustique de Dominique et son côté songwriter, comme on le dirait d'un Dylan ou d'autres personnes. Je crois qu'il l'était véritablement. Merci.
Est-ce qu'il y aurait des questions ou des remarques suite à cette communication ?
Est-ce qu'on pourrait rapprocher le son de toute la mouvance qui accompagnait Elvis Costello et tous les groupes de New Wave qui ont pu fleurir aussi à cette époque-là?
Oui, complètement. Enfin, Elvis Costello en particulier. C'est vrai que je ne l'ai pas mis là. Il y a un côté aussi complètement dandy qu'à Elvis Costello et qu'à Dominique. Ça, c'est évident. J'ai plus rapproché de groupes qui avaient une énergie un peu plus proche du punk, parce que Costello, même à l'époque, il n'a jamais vraiment été punk, quoi qu'il en soit. Mais on peut rapprocher de ça, encore une fois, au niveau du son. Costello, par exemple, c'est celui qui a remis à l'honneur la Fender Jazzmaster, qui était une guitare qui était le haut de gamme quand elle est sortie, qui était complètement oubliée. C'est lui qui la ressort. Et elle a ce son aussi tout à fait particulier qu'on a chez Fender, qu'on a sur la Strato, sur la Telecaster, mais qui est très très loin des sons des Gibson, en fait. Donc il y a cet esprit-là aussi qu'on retrouve. Après, il y a toute une autre mouvance, évidemment, je n'ai pas tous les noms, mais on pourrait citer, peut-être un peu moins proche, mais des songwriters comme Joe Jackson ou des gens comme ça aussi. Mais Joe Jackson, au-delà, lui, c'était les 50s et les big bands, lui, qui l'aimait aussi. On l'a vu après.
Oui, Philippe.
Oui, Flavien.
Tu as dit avec une grande pertinence qu'il était difficile de classer musicalement, musicologiquement, les Doxs dans le punk. Tu as parlé de bijoux. Et ça soulève en fait une question qu'apparemment tu te poses de plus en plus et de façon très, très pertinente, qui est comment définir même finalement musicalement le disque punk en tant que disque de musique punk, etc. Et je me demande s'il n'y aurait pas peut-être une piste de réflexion que tu t'es peut-être déjà posée, qui est à partir du moment où tu as l'étiquette, mais l'étiquette au sens le plus physique, le plus matériel, où il y a marqué punk, ça signifie déjà groupe qui aurait pu appartenir à la mouvance punk ou qui y a appartenu mais qui fait à peu près tout sauf du punk. Je me souviens cet album de bijoux là, je ne sais plus comment il s'appelle.
Ouais, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure, c'est dans sa
lettre. Ouais, c'est celui que tu as montré. Moi, je crois que l'édition que j'ai, tu as un magnifique sticker avec marqué le disque punk de l'année 78, 79, je ne sais pas quand il est sorti. Alors, ce disque, c'est tout sauf du punk. Et je me souviens d'une interview de Kurt Cobain qui avait dit pourquoi il s'était orienté vers le grunge, enfin vers des nouveaux sons. C'est parce qu'il voulait découvrir le punk, il a acheté Sandinista des Clash, qui, comme chacun sait, est un album qu'on peut qualifier de...
Qui n'est pas punk.
De tout sauf de punk, en tout cas, voilà. Et je sais pas, il y a peut-être cette première piste, si tu veux, savoir qu'est-ce qui sort du punk, c'est déjà quand t'as marqué punk sur la couverture, sur un sticker...
Exactement, mais là-dessus tu as raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai le premier Marquis de Sade avec un autocollant Motorock dessus, franchement... Et donc j'ai demandé à Philippe Pascal, je lui ai dit, tu savais ça? Il me dit, oui, mais il y avait une sorte de truc avec une tournée qui était financée par je sais pas quoi, Ricard ou machin, et puis il collait des autocollants Motorock sur tous les disques qui étaient, ou les groupes qui étaient concernés. Donc très rapidement aussi, il faut que lorsque le représentant de la maison de disques va chez les disquaires, qui existaient encore à l'époque, il puisse lui dire, ça c'est du punk, ça c'est du machin, c'est du, etc. Et je me souviens même de la FNAC à l'époque, fin des années 70, début des années 80, où quand même les choses étaient aussi extrêmement compartimentées, avant que d'un seul coup ça devienne tout de la variété internationale, c'est-à-dire que, ou de la variété française, ou de la variété internationale. Et puis on n'avait plus le choix. Mais quand j'allais acheter un disque, je savais pertinemment qu'il y avait des rayons ou des endroits où je ne mettais pas les pieds à la FNAC, parce que ce n'était pas là que j'allais trouver ce que je voulais. Il fallait que j'aille au fond à gauche, et que là j'allais avoir 5-6 bacs par ordre alphabétique, avec tous les groupes qui m'intéressaient, les Bauhaus et Cure et compagnie, et que j'allais les trouver là. Aujourd'hui, bon, ça revient un petit peu. Il y a des trucs pour les indépendants, pour le métal aussi. Il y a beaucoup de choses. Mais autrement, tout est tombé dans la variété internationale. Et effectivement, si, encore une fois, Bijou était considéré comme le groupe punk, je crois que c'est une couverture rock et folk, mais peu importe. Était considéré comme ça, comme un groupe punk. Or, si on écoute le Bijou, ils avaient le côté un peu rebelle comme ça du rock'n'roll, mais c'était du rock'n'roll des années 50 aussi, de la même manière. Il ne faut pas oublier que dans les années 70 aussi, on a eu tout un revival de ces années 50, que les gens en 75 qui avaient vécu le début du rock'n'roll, ils avaient 40 balais, et que d'un seul coup, on voit apparaître des tas de trucs, ne serait-ce que la comédie musicale Grease, ou ne serait-ce que American Graffiti, qui revient sur ces années 50, et qui revient sur ces années 50 comme un héritage déjà. De quelque chose. Et lorsque tu parles de Kurt Cobain, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais souviens-toi de ce que je disais tout à l'heure, régulièrement, une nouvelle génération vient et veut effacer toute la complication. Même le post-punk, même des groupes comme Peel, si on écoute, parfois ils sont presque progressif dans la manière dont ils conçoivent les morceaux, des morceaux qui durent 10 minutes, 12 minutes, etc. Même si ça tourne en boucle, on est proche du krautrock, de Neu et des choses comme ça, finalement. Hein. On est très loin des Sex Pistols. Et même tous ces groupes commencent à devenir compliqués, et puis d'un seul coup, ils ont une notoriété. Donc il y a une nouvelle génération qui arrive, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers du rock'n'roll pur et dur. Alors quitte à mettre un peu de distorsion dedans, parce qu'il y a une nouvelle pédale et que la meuf fonctionne bien, et que, paf, d'un seul coup, ça va donner une super distorsion. Mais ils reviennent tous vers ça, à un moment donné. Et même quand on a vu les Strokes, au début des années 2000, c'était encore un retour vers un esprit rock'n'roll qui aurait pu se retrouver sur des scènes françaises aussi, d'un seul coup. Et on en a d'ailleurs sur les scènes françaises. Et même si on regarde les scènes actuelles qui apparaissent, on a des gens qui utilisent des vieux synthés analogiques et tout un tas de trucs pour avoir un son qui redevient plus brut, je dirais, quelque part, même avec des synthés. Donc on a constamment cette espèce de recyclage. Alors certains, comme Simon Reynolds, appellent ça de la rétromania. Je ne sais pas si c'est de la rétromania, si c'est un héritage, si c'est un hommage, si c'est, ça dépend de tout un tas de gens, mais en tout cas, régulièrement, on retrouve ça. Cette espèce de retour vers une certaine... C'est pour ça que j'ai voulu terminer avec ça, finalement. Il était avec sa guitare acoustique, il fait une chanson. On peut l'imaginer jouer par le trio, quatuor des Dogs, mais à la base, il y a une chanson. Et une chanson dont on sent qu'elle aurait pu sortir au début des années 70, qu'elle pourrait ressortir maintenant, qu'il y a quelque chose d'intemporel dans sa manière d'être composée et interprétée, avec des accords, une mélodie. Du songwriting pur et simple.
Oui, juste après,
Le reste, c'est de l'emballage.
Je rends le micro très rapidement, mais c'est vrai, même, tu vois, sur un groupe qui a un son complètement punk comme Metal Urbain, qu'à la fin, tu as une tendance à retourner vers une espèce de boogie distordu, de rock'n'roll,
oui,
etc. Mmh.
Oui, mais même Metal Urbain, ils avaient un vieux fond rock'n'roll quand même.
Juste pour prolonger la remarque de Flavien, enfin, dans le cas de Bijoux, ce qui a joué aussi sur ces phénomènes de désignation qui sont passionnants, parce qu'en fait, c'est Mont-de-Marsan. Enfin, c'est Mont-de-Marsan, le premier festival punk du monde. Donc, bon, voilà. Que se serait-il passé si les Dogs y avaient... Bon, voilà, donc, et l'autre aspect sur les Dogs, c'est aussi le label Sky Dog et le fait que ouais. Zermati, qui est aussi
on en parlait ce matin,
son oui. relais essentiel oui. dans cet aspect-là, oui. bah, voilà, il y a Sky oui. Dog, il y a l'open market, et dans l'esprit des gens et sur le moment, c'est ça aussi qui construit cette image-là, enfin, qui permet de la questionner, quoi, en tout cas.
Mais j'en reparlerai à Lyon, mais on en parlait ce matin, tu as parlé avec Kent et j'ai parlé avec Kent, et même si on écoute le premier album de Starshooter, c'est du rock'n'roll d'abord. Du rock'n'roll joué très vite, ça c'est certain, avec une certaine énergie, avec un gros son, mais c'est du rock'n'roll. Et c'est toi qui me disais ce matin que Kent, au téléphone, t'avait dit que c'est Manov qui leur avait dit « mais c'est du punk, bon, ben on fait du punk, alors parfait ». Voilà. Et pour le coup, il y avait une démarche aussi commerciale de dire bah, « je fais du punk ». C'était le truc qui était là, « je fais du punk ». Et en fait, Kent, quand on l'a vu à Issy Moulineau, disait « vous faites quoi ?» Et à l'époque, il répondait ben, « on joue du rock et on joue très vite et très fort ». Voilà, pour rester ça, point. C'était pas du punk. Alors, les Dogs jouaient très vite et très fort sur scène, les disques étaient un peu plus travaillés.
Bien, merci Philippe.
Merci.
Merci Philippe.